Bonjour Laurent Vallier.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec moi sur le plateau d'affaires suivantes. Je le disais, l'espoir a duré moins de 3 jours. Mais les recherches entreprises depuis mardi à Lagos, dans le sud du Portugal, n'ont donc pas permis de retrouver le corps de Madeleine McCann, disparue à 3 ans, le 3 mai 2007 et introuvable depuis. Le pédocriminel allemand mis en examen en 2022 nie toujours et on ignore en conséquence ce qui est arrivé à la fillette. Plongée dans cette affaire madiste avec Elisa Tranin.
Son visage hante les polices européennes depuis 18 ans. Madeleine McCann, dite Maddy, s'apprêtait à fêter ses 4 ans lorsqu'elle a disparu. La petite fille de nationalité britannique était en vacances au Portugal avec ses parents. La famille réside dans un complexe hôtelier à Praia da Luz. Le soir du 3 mai 2007, les parents couchent Maddy et leurs 2 autres enfants avant d'aller dîner avec des amis dans un restaurant de l'établissement à 100 mètres de leur hébergement. Pour s'assurer que tout va bien, ils organisent des rondes toutes les 30 minutes. Vers 22h, la mère de famille découvre le lit de sa fille vide, la fenêtre et les volets ouverts.
Si nous avions pensé une seconde que cela comportait un risque, ça ne serait pas arrivé. Je pense que cela indique à quel point nous nous sentions en sécurité.
La piste de l'enlèvement est rapidement privilégiée. Des témoins disent avoir aperçu un homme avec dans ses bras une fillette en pyjama dont le signalement correspond à Maddy. Ces informations ne donne rien.
Les enquêteurs portugais vont s'intéresser à plusieurs suspects, mais notamment à la mère de Maddy, qui va concentrer à un moment donné toute leur attention au point qu'elle va finir par être mise en examen. En réalité, la mère est innocente, elle va bénéficier d'un non-lieu.
L'enquête piétine malgré une forte médiatisation. Jusqu'en 2020, la police allemande désigne alors un suspect.
C'est un délinquant sexuel qui a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des abus sexuels sur des enfants. Le suspect a vécu régulièrement en Algarve entre 1995 et 2007, dont plusieurs années dans une maison entre Lagos et Praia da Luz.
Incarcéré pour d'autres faits, Christian Bruckner nie son implication dans la disparition de Maddy, mais plusieurs indices permettent de le relier à l'enlèvement de la fillette. Dans son camping-car garé à 2 km de Praia da Luz, des maillots de bain d'enfants ont été retrouvés. Cette semaine, des fouilles ont été organisées au Portugal.
La zone de recherche n'est pas située très loin de là où vivait Christian B. Et la police sait qu'il était là notamment le jour de la disparition, le 3 mai 2007. Son téléphone avait borné dans la zone. Je pense que la police recherche les restes de Madeleine McCann. Les enquêteurs disposent aujourd'hui de nouveaux radars technologiques puissants.
Mais comme lors de la première campagne de fouilles il y a 2 ans, ces nouvelles recherches n'ont rien donné. Depuis 2007, les parents de Maddy McCann gardent l'espoir de retrouver un jour leur fille.
Et Laurent, pour revenir sur cette affaire et voir les derniers développements, nous accueillons Mélanie Bertrand. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Journaliste police-justice BFM TV, vous étiez sur place au Portugal, vous allez nous expliquer ce que vous avez vu et entendu. Grand reporter police-justice BFM TV, Jean-Alphonse Richard. Bonjour, journaliste présentateur de l'heure du crime sur RTL et Christian Flech. Merci Bonjour. Également d'être présent, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Laurent, j'aime bien débuter avec une question de goût. L'affaire Maddy, on a tous un ressenti, une image, un souvenir, parce que c'est une affaire hors norme qui dure, je le disais, depuis 2007 maintenant, et qui a marqué les esprits.
Oui, parce que c'est un peu la première affaire à l'échelle européenne, hein, puisque c'est vrai que la famille, la petite Madeleine, elle disparaît dans un endroit qui est très touristique. Il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Britanniques. Il y a des recherches tout azimut. Et puis, un peu comme notre affaire Grégory, à nous en France, assez vite, c'est la maman qui est soupçonnée. Alors évidemment, ça nous touche tous. D'abord parce que c'est très émouvant. Et puis ensuite parce que ça pourrait arriver à tout le monde de laisser ses enfants le temps d'un apéritif ou d'un déjeuner. Et puis là, tout d'un coup, la maman, elle revient dans la chambre. Et puis il y a plus sa petite fille.
Avec la fenêtre ouverte.
Alors c'est vrai qu'on veut y croire, et puis on voulait y croire, Mélanie, cette semaine, à ses recherches un peu de la dernière chance, parce que le Christian Bruckner, il y a quand même il y a beaucoup de choses qui font penser que c'est lui quand même.
Oui. Christian Bruckner, c'est le suspect en Allemagne, effectivement, qui est incarcéré pour un autre viol commis 2 ans avant sur les lieux même de Praia da Luz, et c'est autour de sa propriété qu'il avait à l'époque donc de la disparition de Maddy que les enquêteurs ont cherché. Oui, il a un profil évidemment qui intéresse les enquêteurs. Le journaliste allemand le disait, son téléphone a borné dans la zone, c'est un délinquant sexuel, il est déjà été condamné pour des agressions et des viols sur des enfants, et là en ce moment il purge une peine pour un viol commis cette fois sur une septuagénaire, mais dans la région de Praia da Luz. Donc il y a beaucoup de critères évidemment qui intéressent les enquêteurs, et on a vu nous pendant toute la semaine des policiers allemands de la brigade criminelle allemande qui était sur place avec des véhicules allemands. Ils sont venus sûrement avec un matériel de pointe. On nous a parlé de géoradar parce que c'est une zone immense. Il faut vraiment s'imaginer 50 hectares de végétation. On a pu s'approcher un moment de végétation, de broussailles, de fourrés. Il y a des ruines de maisons abandonnées. Il y a des puits à sonder. Donc ça demande énormément de moyens humains et techniques. Et malheureusement, après 3 jours de fouilles, la police judiciaire portugaise nous a indiqué qu'il n'avait rien, absolument rien retrouvé de probant sur place.
On voit les images que vous avez ramenées, vous étiez sur place avec João Alencar. Comment ça se passe? Parce que peu de personnes ont accès à ce type de zone et de fouilles. Comment c'est organisé? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce qu'on vous dit?
Bah nous, les journalistes, il y a un périmètre de sécurité, évidemment, il filtre les passages des habitants qui ont le droit de regagner leur maison, mais il y a des policiers qui filtrent. Personne ne s'exprime sur place. On voit un petit peu le balai des enquêteurs qui arrivent le matin vers 8h30, qui repartent le soir à 19h. On n'a pas accès, nous, visuellement à grand-chose. Alors, avec les journalistes portugais, on a essayé de se balader dans le coin pour essayer d'avoir de meilleures images. Et on les voit d'ailleurs, on voit leurs tentes. Je ne sais pas si on voit sur les images. On voit des tentes des enquêteurs qui récoltent sans doute du matériel sur place, des indices, quelque chose. Mais ils n'ont rien trouvé. Donc nous, on a été cantonnés à cela. Et après, on a pu avoir des sources portugaises qui nous ont indiqué qu'ils n'avaient rien trouvé.
Est-ce qu'on pense que c'est les fouilles de la dernière chance? Parce que Bruckner, il est en prison pour 7 ans, là, mais il est libérable en septembre. Qu'est-ce qui va se passer?
Sans doute que les enquêteurs ont tenté un peu ont tenté d'abattre leur dernière carte parce que à ce stade formellement il n'est pas mis en examen dans le dossier Maddy. Il est considéré il y a un terme en portugais qui dit arguido, qui veut dire qu'il est considéré comme le principal suspect. C'est lui aujourd'hui qui fait office d'unique suspect, mais il est libérable dans quelques mois, donc il faut aller vite. Sans doute que les enquêteurs ont tenté un dernier coup en allant perquisitionner autour de sa maison. Encore une fois, a priori, sans résultat.
Christian Flèche, qu'est-ce qui se joue ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que cherchent les enquêteurs, qu'ils soient allemands, portugais, ils auraient pu être français? Qu'est-ce qu'on va chercher? On cherche le corps de Maddy, on cherche des vêtements, on cherche des traces. On est quand même un certain nombre d'années après.
Alors voilà, justement, c'est-à-dire que les Portugais, évidemment, ils cherchent la poursuite de leurs investigations, mais en même temps, ils n'ouvrent pas une autre enquête. Ils assistent l'enquête des Allemands. L'enquête des Allemands, en 2020, ils sont sûrs de l'implication de Bruckner. Donc, ils ont sans doute des éléments qu'on ignore, mais qui font qu'ils ont une certitude. Donc, cette certitude, elle les amène maintenant à chercher les preuves, parce que manifestement, ils en manquent. Donc vous voyez, pour répondre à votre question, il y a la vérité évidemment qui est recherchée, mais le sens de l'enquête n'est pas le même. Les Portugais développent une enquête qui part du terrain pour arriver à une mise en cause, alors que les Allemands ont une certitude qu'ils essayent d'étayer par le terrain.
Qu'est-ce qui fait qu'on en est encore là, si longtemps après? C'est que ça a été mal fait au début? Parce qu'on parle d'un pédocriminel qui aujourd'hui apparaît comme un suspect idéal, pardon pour le mot. On a soupçonné les parents, on va y revenir. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est encore là? C'est qu'au moment de la disparition, il y a des choses qui ont été mal faites ou pas faites?
Je pense que si le fond du départ est bon, on peut développer l'enquête sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Si on est dans une incertitude aujourd'hui, c'est que le fond n'a pas été complet, à mon avis. Par exemple, si les Allemands sont sûrs que donc Bruckner était présent à proximité au moment des faits, normalement les Portugais auraient dû le déterminer également au départ. Et donc s'inquiéter de la personnalité de ce marginal qui traînait au Portugal.
C'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que avec le recul et puis toutes les pistes qu'il y a eu, Scotland Yard a enquêté, les Allemands, etc., on voit qu'il y a une liste impressionnante de pédophiles avérés qui étaient dans la zone et qui ont été découverts. Il y a eu 2 Écossais, il y a eu un autre Allemand qui était dans la zone, ouais, qui avait tué 3 enfants déjà. Donc, et ça paraît étonnant avec le recul qu'au fond, ces suspects potentiels, notamment avec les bornages de téléphone, ils soient pas d'entrée épluchés par les policiers portugais. Tout ça, c'est des pistes qui ont été faites, mais 10 ans, 15 ans après. Pourquoi d'entrée de jeu, il n'y a pas eu ce passage au crible?
C'est difficile de vous faire une... comment dire, une appréciation sur une enquête, d'autant plus que c'était il y a 18 ans. Mais il est certain que si on déroule une enquête normalement dans le calme, et là, manifestement, il y avait une énorme pression médiatique, si on déroule une enquête dans le calme, on doit arriver petit à petit, au fil des mois, à éliminer tous les suspects qui n'apparaissent qu'après coup. Et puis, il y a aussi, et ça c'est curieux, il y a aussi l'enquête anglaise qui, pour l'instant, existe, mais dont on ne sait pas en quoi elle intervient dans les derniers développements.
Jean-Alphonse, c'est ce qui fait que cette affaire, m'a dit, est hors norme ou nous marque autant. Alors évidemment, il y a cette photo du petit visage, ça rappelle Estelle Mouzin, par exemple, à Guermantes, ces affiches-là, ça rappelle la photo du petit Grégory, donc dans l'inconscient collectif, ça marque. Mais il y a aussi ces pistes, il y a aussi ce suspect idéal, il y a aussi le fait qu'on soupçonne les parents. C'est ça qui fait que l'affaire m'a dit,
tout ça, c'est
aujourd'hui...
C'est un cocktail, et puis, bon, c'est un cold case, il ne faut pas l'oublier, donc effectivement, ça retient l'attention. Moi, je rejoins Christian Flèche, qui ose peut-être pas trop le dire comme ça, mais effectivement, l'enquête au début, elle a été complètement ratée.
Je voulais poser la question comme ça, parce que je sens que c'est plus compliqué.
Non, parce que
vous avez bien raison.
On est 6 ans après la disparition de Mahdi, on découvre Bruckner. Mais qui le découvre? C'est pas les Portugais, c'est pas les Allemands. C'est la Metropolitan Police à Londres. Et il faut saluer le travail de la Metropolitan Police. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un truc tout bête. Ils ont regardé tous les fichiers de suspects possibles dans la région, les gens qui étaient là, la téléphonie, etc. Et c'est à partir de là qu'ils vont faire remonter Bruckner. Donc ça, c'est très, très intéressant et très prenant. Ensuite, effectivement, vous l'avez dit, cold case remarquable, parce que la petite fille, elle est sans doute plus au Portugal aujourd'hui. On a fait beaucoup de recherches dans ce coin qui est très compliqué d'accès, je veux bien l'admettre. Mais il faut bien souligner quelque chose, c'est que Bruckner, c'est un itinérant.
Il a
deux camping-cars. Il a une Jaguar aussi qui va faire immatriculer le lendemain de l'enlèvement de Mahdi. Il rentre en Allemagne tout de suite.
Il quitte le Portugal.
Il va en Espagne.
Et de mémoire, il bloque pas les accès.
Bien sûr.
Routes, aéroports, etc.
Tout est ouvert.
Tout est ouvert. Donc, la scène de crime, elle est totalement piétinée par énormément de monde à ce moment-là. Donc, pour récupérer des indices ensuite, ça a été effectivement sans doute.
Et avec ce parti pris d'accuser la famille.
Oui, les enquêteurs portugais, le commissaire central.
Et c'est vrai que ce qui fait que là où Bruckner est un suspect solide, c'est qu'il a aussi un passé de cambriolage d'hôtel. Ouais. Et c'est vrai que ça peut expliquer qu'il rentre dans cette chambre un peu à l'improviste. C'est des bungalows.
On ne sait pas si c'est un improviste ou s'il avait surveillé sa famille.
Mais c'est possible. Ouais. Et c'est parce que c'est vrai que c'est difficilement prévisible de savoir que ce soir-là, elle est dans cette chambre sans les parents. Donc c'est vrai que ça rend les choses plausibles.
Un mois avant, l'appartement avait été visité par un cambrioleur. Donc, c'est un appartement qui est assez facile d'accès.
Oui, très facile d'accès, on y était.
Et c'est un lieu de deal.
De construction assez classique.
Oui, c'est un lieu de deal de drogue, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent par là. Il y a beaucoup de touristes, donc, essentiellement dans cette petite ville de Praia da Luz. Donc, effectivement, on peut se poser des questions.
Christian Fleisch, on va peut-être vous refaire l'image, justement, de cet Ocean Club qui est à Praia da Luz. C'est vrai que c'est...
La fenêtre, juste pour préciser, le volet fermé, c'est la chambre où dormait Mahdi. Donc, comme vous le voir, c'est facile d'accès par le rez-de-chaussée puisqu'il y a un accès rue directement.
Ce qui fait évidemment beaucoup parler, c'est le fait que des parents laissent leur petite... Alors, ils dînent dans le restaurant de la résidence à une centaine de mètres. Ils la laissent en surveillance et puis ils reviennent, il y a une fenêtre ouverte.
Avec ses deux frères.
Avec les deux frères de deux ans.
Un frère et une sœur.
18 mois.
C'est vrai que ça permet évidemment d'ouvrir toutes les pistes. C'est-à-dire qu'on peut se dire autant négligence des parents, voire rôle des parents, autant le rôdeur, autant le pédocriminel. Comment, quand on est enquêteur, on tente, selon l'expression consacrée, de fermer des portes? Qu'est-ce qui permet de... Qu'est-ce qui permet d'écarter une hypothèse?
Quand on veut impliquer les parents, il faut être sûr de soi. Donc il faut qu'on ait des éléments et qu'ils soient sûrs. Ce que je remarque, c'est que entre le moment où ça s'est passé et le moment où les parents sont impliqués, il y a que quelques mois, au milieu d'une pression énorme, et puis de pistes qui auraient pu être ouvertes ailleurs, quoi. Donc, s'il n'y a pas d'éléments suffisants pour impliquer les parents, c'est compliqué de le jeter en pâture aux médias.
Mélanie, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, ce qui est frappant, c'est quand on est sur place, quand on parle aux gens, pour eux, il n'y a pas de doute.
Ah non,
mais c'est pas le pédocriminel allemand, ce sont les parents.
Oui. Encore
aujourd'hui, ils sont montrés du doigt, ils ont cette étiquette.
Oui, et moi je m'attendais pas à ce genre de réaction. C'est vrai que quand on a interrogé les gens avec João Alencar, les habitants de Praia da Luz presque éclatent de rire quand on leur parle de l'allemand en nous disant mais c'est fou, elles servent à quoi? On veut lui mettre ça sur le dos. devant notre caméra, ils nous disent « j'ai ma petite idée sur qui a fait le coup, mais je vous le dirai pas ». Et quand on éteint le micro, la plupart des gens à qui on parle nous disent « pour nous, c'est les parents ». Ça reste vraiment ancré dans le ressentiment des gens. Et on a discuté avec un de nos confrères journalistes portugais qui a suivi toute l'affaire il y a 18 ans et nous disait « oui, c'est vrai, donc ici dans l'Algarve, donc dans cette région du sud du Portugal, il y a un ressentiment de la population envers les parents parce que les Portugais ont trouvé qu'il y avait des moyens énorme qui était mise en place à l'époque pour rechercher Madi, alors que ils ont tous en tête en fait un autre fait divers, la disparition d'un petit garçon, Rui Pedro, quelques années avant Madi, un petit Portugais. Et apparemment, les recherches ont été vraiment très très légèrement entreprises et l'enfant n'a jamais été retrouvé. Donc eux, l'emballement médiatique, les parents étaient soutenus à l'époque par le Premier ministre Gordon Brown, etc. Donc il y avait un énorme écho médiatique dont eux, Portugais, n'ont pas bénéficié pour ce petit garçon. Donc il y a eu une espèce de ressentiment et effectivement, la plupart des gens à qui on a parlé nous disaient « pour nous, c'est les parents ».
C'est vrai que c'est le parallèle avec l'affaire Grégory où la police contre la gendarmerie soupçonne Christine Villemain. Et on voit bien à quel point des fois chez les enquêteurs, alors au Portugal, Jean-Alphonse l'a interviewé, Gonzalo Amara, le policier, il en a fait un livre pour dire que c'est la maman, il en est sûr.
Mais il le dit encore.
Il s'est suicidé 20 ans plus tard en continuant d'affirmer que Christine Villemain y est pour quelque chose. Alors qu'en réalité, l'enquête du juge Simon l'a mise en hors de cause complètement. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les enquêteurs, quand on a une conviction, de faire machine arrière.
Enfin, il a été viré à l'époque, quand même, le commissaire Amara.
Ça a été assez brutal. Mais il faut dire que les Anglais ont beaucoup appuyé pour que la mère soit mise hors de cause. Là, il y avait vraiment un problème presque diplomatique, on l'a vu. Et les Allemands ne sont jamais d'ailleurs revenus là-dessus, sur cette culpabilité de la maman.
Qu'est-ce qui fait qu'ils ont une tête de coupable? Qu'est-ce qui fait qu'on les soupçonne véritablement? Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont blanchis, ces parents?
Eh oui.
Ils sont blanchis parce qu'il n'y a aucun élément qui les raccroche. Il n'y a personne qui est revenu, qui a été vu en train de revenir dans la chambre de la petite fille. On n'a pas ces éléments. La téléphonie, on reste au restaurant. Les témoins qui étaient avec eux au restaurant notent qu'ils sont restés au restaurant, etc. Donc voilà, il n'y a pas de médicaments particuliers qui ont été retrouvés, si ce n'est des traitements qu'ils prenaient comme ça de manière quotidienne. Donc, on ne peut pas raccrocher. Mais c'est effectivement, il y a une idée dans la tête de l'enquêteur principal. Amaral, c'est l'enquêteur principal. C'est le chef d'enquête qui va aller là-dessus. Et on va perdre des mois et des mois.
Il y a aussi les chiens. À l'époque, avaient été utilisés des chiens. Il y avait deux chiens spécialisés, un en recherche de restes humains et l'autre sur les traces de sang. Et les deux chiens, ont stoppé l'un dans la chambre, l'autre dans le coffre de la voiture qu'avaient loué les McCann, mais 25 jours après la disparition de Madi. Et les Portugais se sont focalisés là-dessus pendant des semaines en disant les chiens, c'est une preuve scientifique, ça montre qu'ils nous ont menti, qu'ils ont caché le corps, puis trois semaines après, l'ont déplacé dans le coffre de cette Renault Scénic. Or, tout ça, ensuite, par les analyses plus poussées, ont prouvé qu'il y avait très peu de correspondance, finalement, avec Madi et que ça pouvait être le sang de n'importe qui. Mais pendant des semaines, ils se sont braqués là-dessus et les parents ont véritablement vécu un enfer, à la fois du côté médiatique, tabloïd anglais, presse portugaise, presse européenne. Ils ont vécu un enfer avant d'être mis hors de cause.
Police scientifique, disait Mélanie Christian Flége. Est-ce qu'aujourd'hui, seule la science permettra de savoir ce qui est arrivé à Madi? Est-ce que c'est encore possible?
J'espère, en tout cas, je pense que c'est l'espérance aussi à la fois des parents et puis de la police allemande, peut-être un peu moins de la police portugaise, mais en tout cas de la police allemande, avec des nouveaux moyens, parce que 18 ans après, ça a au moins l'avantage, c'est qu'il y a des nouveaux moyens de police technique et scientifique de découvrir peut-être des débris humains ou peut-être d'autres traces qui donneront du corps à la suspicion allemande.
Jean-Alphonse, on connaîtra la vérité de ce cold case?
On l'espère, évidemment, oui. Après, là, je sais que les policiers sont en train d'essayer de tracer très précisément les lendemains de la disparition, avec qu'est-ce qu'a fait Bruckner ce lendemain-là. Il y a un trou de 3 jours, à peu près. On sait qu'il est rentré en Allemagne, mais il y a un trou de 3 jours. C'est compliqué, il est sans doute passé par l'Espagne. Donc, voilà, ça tient autour de cet homme.
En tout cas, Bruckner n'est pas du tout le genre à aider les enquêteurs.
Pas vraiment.
Non. Il nie, d'ailleurs, totalement toute implication.
Il est puissant,
ça.